L'exercice de compréhension orale est constitué de trois parties. Première partie. Vous allez entendre trois extraits de reportages radiophoniques. Vous entendrez chaque reportage deux fois de suite. Vous aurez 90 secondes pour lire les propositions ci-dessous. Après les deux écoutes de chaque document sonore, cochez la bonne case de la phrase qui résume le mieux le contenu. Attention, parmi les six phrases, seulement trois correspondent aux extraits de reportage. Document sonore numéro 1.
Ils sont une quinzaine de jeunes issus des quartiers. Ils réalisent leur rêve, être à la tête de leur société. Rapprocher les jeunes de la banlieue du monde de l'entreprise, une idée originale qui a germé dans la tête de deux hommes. Explication Thibault Lansal, responsable du mouvement des entreprises de France au MEDEF.
Alors, au départ, c'est une rencontre entre Moussa Camara et Pierre Gattaz, qui se sont rencontrés lors d'une table ronde au Sénat il y a un peu plus d'un an. Et puis Pierre a dit ce serait pas mal qu'on puisse approfondir le sujet. On avait un programme qui était d'aider les quartiers et de voir comment on pouvait s'y prendre de façon un peu innovante, un peu différente, non stigmatisante. Et on a travaillé sur l'envie avec Moussa Camara.
L'envie doit être en effet pour ces jeunes l'élément déclencheur. Moussa Camara, président de l'association Agir pour réussir et initiateur du projet.
On ne regardait pas le diplôme, on ne regardait pas la compétence, etc. Le seul truc qu'on regardait, c'était l'envie et la détermination. Parce qu'il faut savoir, c'est deux mondes aujourd'hui qui se réunit, qui se regardait en chien de faïence. Et aujourd'hui, là, on est en train de réussir, là où les gouvernements, depuis près de 40 ans, ils sont en train d'échouer dans nos quartiers.
Document sonore numéro 1.
Ils sont une quinzaine de jeunes issus des quartiers. Ils réalisent leur rêve, être à la tête de leur société. Rapprocher les jeunes de la banlieue du monde de l'entreprise, une idée originale qui a germé dans la tête de deux hommes. Explication Thibault Lansal, responsable du mouvement des entreprises de France au MEDEF.
Alors, au départ, c'est une rencontre entre Moussa Camara et Pierre Gattaz, qui se sont rencontrés lors d'une table ronde au Sénat il y a un peu plus d'un an. Et puis Pierre a dit ce serait pas mal qu'on puisse approfondir le sujet. On avait un programme qui était d'aider les quartiers et de voir comment on pouvait s'y prendre de façon un peu innovante, un peu différente, non stigmatisante. Et on a travaillé sur l'envie avec Moussa Camara.
L'envie doit être en effet pour ces jeunes l'élément déclencheur. Moussa Camara, président de l'association Agir pour réussir et initiateur du projet.
On ne regardait pas le diplôme, on ne regardait pas la compétence, etc. Le seul truc qu'on regardait, c'était l'envie et la détermination. Parce qu'il faut savoir, c'est deux mondes aujourd'hui qui se réunit, qui se regardait en chien de faïence. Et aujourd'hui, là, on est en train de réussir, là où les gouvernements, depuis près de 40 ans, ils sont en train d'échouer dans nos quartiers.
Document sonore numéro 2.
Aminata Konaté, présidente de la Maison de la Femme.
Je ne suis pas une migrante, hein. Je suis une Française d'origine malienne. Le premier combat qu'on a mené, c'est de dire que la jeunesse de France, eh bien, il y a une jeunesse aux identités multiples. Et que ces identités multiples, elles sont composées de notre culture, de notre vécu, du pays d'origine, de nos parents. Donc, issue de l'immigration, c'est très péjoratif parce qu'on nous renvoie tout le temps à nos origines.
Pourtant, les discriminations liées aux origines sont flagrantes. De nombreuses études ne cessent de les dénoncer. Selon l'OCDE, les descendants des immigrés venus d'Afrique sont 3 fois plus touchés par le chômage que les Français dits de souche. Explication avec Sonia Amoudi, responsable ressources humaines et diversité au Conseil économique, social et environnemental.
Le constat est effectivement triste, alarmant. Je pense que nombreuses sont les études, les testings qui ont démontré que lorsqu'on était diplômé et issu de l'immigration, que ce soit la recherche d'un stage, d'un emploi ou l'évolution de carrière au sein de l'entreprise, elle était toujours plus difficile, beaucoup plus lente qu'un jeune d'origine française.
Document sonore numéro 2.
Aminata Konaté, présidente de la Maison de la Femme.
Je ne suis pas une migrante, hein. Je suis une Française d'origine malienne. Le premier combat qu'on a mené, c'est de dire que la jeunesse de France, eh bien, il y a une jeunesse aux identités multiples. Et que ces identités multiples, elles sont composées de notre culture, de notre vécu, du pays d'origine, de nos parents. Donc, issue de l'immigration, c'est très péjoratif parce qu'on nous renvoie tout le temps à nos origines.
Pourtant, les discriminations liées aux origines sont flagrantes. De nombreuses études ne cessent de les dénoncer. Selon l'OCDE, les descendants des immigrés venus d'Afrique sont 3 fois plus touchés par le chômage que les Français dits de souche. Explication avec Sonia Amoudi, responsable ressources humaines et diversité au Conseil économique, social et environnemental.
Le constat est effectivement triste, alarmant. Je pense que nombreuses sont les études, les testings qui ont démontré que lorsqu'on était diplômé et issu de l'immigration, que ce soit la recherche d'un stage, d'un emploi ou l'évolution de carrière au sein de l'entreprise, elle était toujours plus difficile, beaucoup plus lente qu'un jeune d'origine française.
Document sonore numéro 3.
Ikram Benaouda, elle aussi a tout pour réussir. À 25 ans, cette jeune Française d'origine algérienne, juriste de formation, s'est spécialisée en droit européen. Depuis 2 ans, elle envoie CV sur CV et n'arrive toujours pas à décrocher ne serait-ce qu'un stage. Son profil n'intéresse aucune entreprise, elle ne comprend pas.
Moi, j'ai toujours eu confiance en fait en l'école française. C'est-à-dire que depuis tout petite, ma mère nous disait déjà le baccalauréat, c'était le passeport de la réussite, parce que ma mère est femme de ménage. J'ai toujours eu de très bonnes notes, j'ai fait tout ce qu'il a fallu faire. Et arrivée à la fin de l'université, je me suis prise une claque. J'ai été boursière, donc quelque part, l'État m'a financé mes études et sortie de l'université, j'ai rien.
Document sonore numéro 3.
Ikram Benaouda, elle aussi a tout pour réussir. À 25 ans, cette jeune Française d'origine algérienne, juriste de formation, s'est spécialisée en droit européen. Depuis 2 ans, elle envoie CV sur CV et n'arrive toujours pas à décrocher ne serait-ce qu'un stage. Son profil n'intéresse aucune entreprise, elle ne comprend pas.
Moi, j'ai toujours eu confiance en fait en l'école française. C'est-à-dire que depuis tout petite, ma mère nous disait déjà le baccalauréat, c'était le passeport de la réussite, parce que ma mère est femme de ménage. J'ai toujours eu de très bonnes notes, j'ai fait tout ce qu'il a fallu faire. Et arrivée à la fin de l'université, je me suis prise une claque. J'ai été boursière, donc quelque part, l'État m'a financé mes études et sortie de l'université, j'ai rien.
Deuxième partie. Vous allez entendre une interview entre Laurent Berthaud et Eve Minot au sujet des jeunes entre 25 et 35 ans. Vous aurez d'abord 2 minutes et demie pour lire les questions ci-dessous. Ensuite, vous écouterez l'interview 2 fois. Après la première et la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour vérifier vos réponses. Document sonore.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors avec vous, on va reparler des Tanguis, ces jeunes entre 25 et 35 ans qui vivent encore chez leurs parents, bien souvent contraints et forcés. Ce week-end, le compte Twitter Amazing Maps publiait une carte d'Europe indiquant la proportion de ces jeunes adultes résidant chez papa-maman, avec des disparités bien différentes entre le nord et le sud, Eve.
Oui, et l'intérêt de cette carte est finalement de confronter d'une part des données culturelles, d'autre part la difficile réalité économique d'aujourd'hui. Je m'explique. On sait par exemple que les jeunes garçons italiens sont traditionnellement parmi les plus tardifs à quitter le logement familial. On ne sera donc pas étonné de les retrouver dans le bas du tableau, parmi ceux qui restent le plus longtemps chez leurs parents. Mais cette carte, si on la superpose à celle des chiffres du chômage chez les jeunes, donne une toute autre lecture au phénomène des Tanguis. Résultat, eh bien, la Grèce, un pays particulièrement touché par la crise. En Grèce, donc, un jeune sur deux habite encore chez ses parents à 35 ans, suivent dans le classement l'Italie et le Portugal. Quant au cas espagnol, un jeune trentenaire sur trois squatte encore sa chambre d'ado. Les champions en toute catégorie des Tanguis sont les jeunes slovaques jusqu'à 35 ans. Ils sont 56% à vivre encore avec leurs parents. À l'opposé, les pays scandinaves font bloc. Les jeunes quittent le nid familial très tôt. 96% d'entre eux ont déjà leur chez-soi avant 35 ans. Un score particulièrement impressionnant, celui du Danemark, où il dépasse les 98%.
Alors au Danemark, ça s'explique aussi par une politique publique particulièrement émancipatrice.
Oui, ce pays s'illustre en Europe par son système de subventions étudiants particulièrement généreux et un taux de chômage des jeunes qui reste plutôt bas malgré la crise. Un étudiant danois peut toucher jusqu'à 650 euros par mois environ durant ses 6 années d'études et peut s'en contenter puisque 3 étudiants sur 4 au Danemark ont une activité professionnelle en parallèle de leurs années fac. Les Danois sont donc les champions de l'indépendance en Europe.
En tout cas, quasiment partout en Europe, les jeunes restent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'hier. C'est le cas en France, par exemple.
Oui, même si la France reste dans la fourchette basse du tableau, avec 11,5% des moins de 35 ans encore chez leurs parents, c'est moins qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, le phénomène va en s'accentuant. La France a beau avoir, elle aussi, un système de subvention pour le logement étudiant, accessible à tous. Ces aides ne suffisent évidemment pas à se loger, surtout dans la capitale où les loyers explosent.
Alors pour autant, Eve, la crise n'explique pas tout.
Non, selon Claire Gavray, une sociologue basée à l'université de Liège et citée par le quotidien belge Le Soir, ce recul général de l'envol des jeunes européens a plusieurs facteurs qui dépassent largement ceux de la crise ou de la tradition et traversent les frontières. Il y a d'abord l'allongement de la durée des études, puis de celle de l'insertion professionnelle. Il y a ensuite évidemment la précarisation des contrats de travail. Le passeport pour la location d'un logement reste le CDI à la stabilité rassurante, mais cette émancipation tardive, c'est explique aussi, selon cette sociologue, par une certaine valorisation culturelle de la jeunesse, du plaisir et du bonheur individuel, la peur de l'engagement et une certaine attirance pour une culture régressive caractérisée par la peur de grandir. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. En réalité, on observe aussi un nouveau phénomène qui relativise un peu toutes ces statistiques que je viens de vous soumettre. Les jeunes Européens, baladés par la précarité, sont de plus en plus nombreux à faire des allers et des retours entre l'indépendance et le retour à la maison chez papa-maman.
Merci Eve Minot, qui n'habite plus chez ses parents depuis quelques années déjà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Document sonore.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors avec vous, on va reparler des Tanguis, ces jeunes entre 25 et 35 ans qui vivent encore chez leurs parents, bien souvent contraints et forcés. Ce week-end, le compte Twitter Amazing Maps publié une carte d'Europe indiquant la proportion de ces jeunes adultes résidant chez papa-maman, avec des disparités bien différentes entre le Nord et le Sud, Eve.
Oui, et l'intérêt de cette carte est finalement de confronter d'une part des données culturelles, d'autre part la difficile réalité économique d'aujourd'hui. Je m'explique. On sait par exemple que les jeunes garçons italiens sont traditionnellement parmi les plus tardifs à quitter le logement familial. On ne sera donc pas étonné de les retrouver dans le bas du tableau, parmi ceux qui restent le plus longtemps chez leurs parents. Mais cette carte, si on la superpose à celle des chiffres du chômage chez les jeunes, donne une toute autre lecture au phénomène des tanguis. Résultat, eh bien, la Grèce, un pays particulièrement touché par la crise. En Grèce, donc, un jeune sur deux habite encore chez ses parents à 35 ans, suivent dans le classement l'Italie et le Portugal. Quant au cas espagnol, un jeune trentenaire sur trois squatte encore sa chambre d'ado. Les champions en toute catégorie des tanguis sont les jeunes slovaques jusqu'à 35 ans. Ils sont 56% à vivre encore avec leurs parents. À l'opposé, les pays scandinaves font bloc. Les jeunes quittent le nid familial très tôt. 96% d'entre eux ont déjà leur chez-soi avant 35 ans. Un score particulièrement impressionnant, celui du Danemark, où il dépasse les 98%.
Alors, au Danemark, ça s'explique aussi par une politique publique particulièrement émancipatrice.
Oui, ce pays s'illustre en Europe par son système de subventions étudiants particulièrement généreux et un taux de chômage des jeunes qui reste plutôt bas malgré la crise. Un étudiant danois peut toucher jusqu'à 650 euros par mois environ durant ses 6 années d'études et peut s'en contenter puisque 3 étudiants sur 4 au Danemark ont une activité professionnelle en parallèle de leurs années fac. Les Danois sont donc les champions de l'indépendance en Europe.
En tout cas, quasiment partout en Europe, les jeunes restent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'hier. C'est le cas en France, par exemple.
Oui, même si la France reste dans la fourchette basse du tableau, avec 11,5% des moins de 35 ans encore chez leurs parents, c'est moins qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, le phénomène va en s'accentuant. La France a beau avoir, elle aussi, un système de subvention pour le logement étudiant, accessible à tous. Ces aides ne suffisent évidemment pas à se loger, surtout dans la capitale où les loyers explosent.
Alors pour autant, Eve, la crise n'explique pas tout.
Non, selon Claire Gavray, une sociologue basée à l'université de Liège et citée par le quotidien belge Le Soir, ce recul général de l'envol des jeunes Européens a plusieurs facteurs qui dépassent largement ceux de la crise ou de la tradition et traversent les frontières. Il y a d'abord l'allongement de la durée des études, puis de celle de l'insertion professionnelle. Il y a ensuite évidemment la précarisation des contrats de travail. Le passeport pour l'allocation d'un logement reste le CDI à la stabilité rassurante, mais cette émancipation tardive, c'est explique aussi, selon cette sociologue, par une certaine valorisation culturelle de la jeunesse, du plaisir et du bonheur individuel, la peur de l'engagement et une certaine attirance pour une culture régressive caractérisée par la peur de grandir. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. En réalité, on observe aussi un nouveau phénomène qui relativise un peu toutes ces statistiques que je viens de vous soumettre. Les jeunes Européens, baladés par la précarité, sont de plus en plus nombreux à faire des allers et des retours entre l'indépendance et le retour à la maison chez papa-maman.
Merci Eve Minot, qui n'habite plus chez ses parents depuis quelques années déjà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Troisième partie. Vous allez entendre une interview au sujet de l'expatriation des jeunes. Christina Girs, rédactrice en chef d'un site internet, répond aux questions d'un journaliste et explique ce phénomène. Vous aurez d'abord 2 minutes pour lire les questions ci-dessous. Ensuite, vous écouterez l'interview 2 fois. Après la première et la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour vérifier vos réponses. Document sonore.
Entretien avec Christina Girs, rédactrice en chef du site vivrealetranger.com du groupe Studirama. Alors Christina, première question, cette tendance à l'expatriation n'est-elle pas générale ?
Oui, alors elle ne concerne pas que les jeunes, effectivement, c'est une tendance générale. Un rapport parlementaire paru en 2014 estime à plus de 2 millions le nombre de Français à l'étranger fin 2013, dont 1,6 million officiellement enregistrés. C'est un chiffre en hausse de 35% depuis 10 ans, donc on voit bien qu'il y a une tendance lourde qui est encore plus marquée chez les jeunes pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors les bonnes raisons, c'est que cette génération est mobile, part plus souvent que ses aînés dans le cadre de ses études et n'a pas encore d'attache familiale pouvant être un frein à un départ. La mauvaise raison, elle, est d'ordre conjoncturel, faute de trouver un boulot en France, et bien certains décident de partir.
Et quelles sont, Christina, les destinations favorites de ces moins de 30 ans ?
Alors on peut classer ces destinations en trois catégories. Les destinations facilement accessibles géographiquement, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique. Celles dont on peut dire qu'elles sont loin mais proches, comme le Québec, facile d'accès du fait de la langue. Et enfin celles qui font rêver, mais qui ne sont pas forcément simples à appréhender, comme l'Asie.
Et dans quelles conditions ces jeunes partent-ils ? Dans de bonnes conditions ?
Alors oui, on imagine parfois le jeune qui part comme un aventurier des temps modernes, sac à dos et aller simple dans la poche. C'est faux pour la majorité d'entre eux. Plus de la moitié est encadrée par un programme international. On peut citer le PVT, Permis Vacances Travail, véritable bon plan puisqu'il permet de joindre l'utile à l'agréable, des vacances et la possibilité d'exercer un petit boulot en toute légalité durant une année. À noter que depuis le 1er janvier, le Canada a rallonger la durée de ces PVT pour les Français, ils sont désormais de 2 ans au lieu d'un. Réservés aux moins de 30 ans, les PVT concernent 40 000 Français chaque année.
Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui permettent comme ça aux jeunes Français de partir à l'étranger ?
Oui, alors il y a d'autres programmes très appréciés comme le VIE, Volontariat International en Entreprise, via lequel des entreprises françaises confient à un jeune une mission professionnelle à l'étranger contre une indemnité mensuelle comprise entre 650 et 3300 euros. Le VIE concernait en 2014 plus de 8 000 jeunes âgés de 28 ans maximum. Enfin, le programme Erasmus, rebaptisé depuis peu Erasmus+, permet à des étudiants de réaliser une partie de leurs études dans un autre pays européen. Ils perçoivent une allocation mensuelle comprise entre 150 et 300 euros par mois selon le coût de la vie locale.
Eh bien merci Christina Girs, rédactrice en chef du site vivrealetranger.com du groupe Studirama.
Document sonore.
Entretien avec Christina Girs, rédactrice en chef du site vivrealetranger.com du groupe Studirama. Alors Christina, première question, cette tendance à l'expatriation n'est-elle pas générale ?
Oui, alors elle ne concerne pas que les jeunes, effectivement, c'est une tendance générale. Un rapport parlementaire paru en 2014 estime à plus de 2 millions le nombre de Français à l'étranger fin 2013, dont 1,6 million officiellement enregistrés. C'est un chiffre en hausse de 35% depuis 10 ans, donc on voit bien qu'il y a une tendance lourde qui est encore plus marquée chez les jeunes pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors les bonnes raisons, c'est que cette génération est mobile, part plus souvent que ses aînés dans le cadre de ses études et n'a pas encore d'attache familiale pouvant être un frein à un départ. La mauvaise raison, elle, est d'ordre conjoncturel, faute de trouver un boulot en France, et bien certains décident de partir.
Et quelles sont, Christina, les destinations favorites de ces moins de 30 ans ?
Alors on peut classer ces destinations en trois catégories. Les destinations facilement accessibles géographiquement, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique. Celles dont on peut dire qu'elles sont loin mais proches, comme le Québec, facile d'accès du fait de la langue. Et enfin celles qui font rêver, mais qui ne sont pas forcément simples à appréhender, comme l'Asie.
Et dans quelles conditions ces jeunes partent-ils ? Dans de bonnes conditions ?
Alors oui, on imagine parfois le jeune qui part comme un aventurier des temps modernes, sac à dos et aller simple dans la poche. C'est faux pour la majorité d'entre eux. Plus de la moitié est encadrée par un programme international. On peut citer le PVT, Permis Vacances Travail, véritable bon plan puisqu'il permet de joindre l'utile à l'agréable, des vacances et la possibilité d'exercer un petit boulot en toute légalité durant une année. À noter que depuis le 1er janvier, le Canada a rallongé allonger la durée de ces PVT pour les Français. Ils sont désormais de 2 ans au lieu d'un. Réservés aux moins de 30 ans, les PVT concernent 40 000 Français chaque année.
Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui permettent comme ça aux jeunes Français de partir à l'étranger ?
Oui, alors il y a d'autres programmes très appréciés comme le VIE, Volontariat International en Entreprise, via lequel des entreprises françaises confient à un jeune une mission professionnelle à l'étranger contre une indemnité mensuelle comprise entre 650 et 3300 euros. Le VIE concernait en 2014 plus de 8000 jeunes âgés de 28 ans maximum. Enfin, le programme Erasmus, rebaptisé depuis peu Erasmus+, permet à des étudiants de réaliser une partie de leurs études dans un autre pays européen. Ils perçoivent une allocation mensuelle comprise entre 150 et 300 euros par mois selon le coût de la vie locale.
Eh bien merci Christine Aguirre, rédactrice en chef du site vivrealétranger.com du groupe Studirama.
C'est la fin de cette épreuve.